de réunions qui, vous savez, actuellement, tournent autour des églises de l'Apocalypse. On peut ouvrir un nouveau tout de suite, si vous voulez bien, le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Pour cette partie d'étude. J'ai à cœur sur ces mardis, là, en ce moment, puisque le dimanche, nous sommes sur la thématique de l'Église. Sur les mardis, je vais un petit peu plus loin et on étudie ensemble les églises de l'Apocalypse, qui sont en réalité sept types d'églises que l'on a toujours trouvées dans l'histoire depuis l'Église primitive, que l'on trouve encore actuellement et que l'on va trouver aussi de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer vers la fin des temps. On a déjà vu l'église d'Éphèse. Alors, vous savez qu'il y a cette église. J'ai volontairement mis de côté Smyrne et Philadelphie, puisque ce sont des églises auxquelles le Seigneur ne fait aucun reproche. Elles n'entendent pas d'appel à la repentance. Sur les sept églises, seulement deux, Smyrne et Philadelphie, s'entendent des encouragements, mais pas d'appel à la repentance. Par contre, les cinq autres, le Seigneur se présente d'une façon particulière, jamais de la même façon. Il présente une facette de sa personne qui correspond à un manque criant de l'Église. Et puis, il y a un appel à la repentance parce qu'il y a des points précis qui la mettent véritablement en danger. Ça, c'est la raison pour laquelle j'aborde les Églises dans cet ordre-là. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est qu'en réalité, quand on regarde bien les Églises qui reçoivent un appel à la repentance, il y a un engrenage destructeur, il y a un schéma descendant. On va d'une église à l'autre, toujours de plus en plus grave, de plus en plus inquiétante. On parle de l'église d'Éphèse, cette église qui, effectivement, à tout le Seigneur, prend la peine de faire un excellent bilan, mais lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis ensuite, il y a un engrenage logique, parce que tout part de cet amour que je dois au Seigneur et qui est totalement légitime. Mais quand on n'aime pas le Seigneur comme on doit l'aimer, forcément ensuite, vient l'étage inférieur, c'est Pergame. Pergame avec déjà du mélange doctrinal. Et oui, si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas garder ma parole. Et on arrive à Pergame. Et puis Pergame, on a la doctrine de Balaam, il commence à avoir de l'impudicité qui rend du péché, de la souillure. Puis après Pergame, eh bien, on passe l'étage encore inférieur parce que forcément, l'engrenage est destructeur. On descend et puis il y a Thyatire. Et après Thyatire, qui elle s'enfonce dans l'impudicité, ensuite il y a Sarde qui s'enfonce du coup dans la façade, dans l'hypocrisie religieuse. Au lieu de régler ce qu'elle a à régler, on fait comme si on met des masques. C'est Sarde, c'est l'hypocrisie religieuse. Et puis une fois qu'on en est arrivé là, c'est quoi l'étape suivante? Je vous l'avais dit, ben, ce soir, c'est la cinquième église qui reçoit un appel à la repentance, c'est la Odyssée. Et la Odyssée, c'est l'église qui a, à force de tolérer ce qui n'est pas tolérable, a fini par mettre le propriétaire de l'église à la porte, c'est-à-dire Jésus. Et on va regarder ça ensemble ce soir. Apocalypse chapitre 3, verset 14, hein, ce sont les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te conseille aussi d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse plus. Et je te conseille aussi d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vois, je reprends et je corrige, je redresse, j'instruis, il y a plusieurs traductions possibles, ce que j'aime. Et donc tu allais, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Nous avons, frères et sœurs, ici, typiquement, l'un des textes bibliques les plus mal compris et les plus mal interprétés qui soient. Je ne sais pas s'il est dans le top 5 ou dans le top 10, mais ici, c'est un texte qui a souvent été mal compris, mal interprété, qui a été utilisé soit par des chrétiens et malheureusement même par des pasteurs, des ministères de la parole, qui a été utilisé de façon très maladroite, voire légaliste, envers les chrétiens, quand le pasteur avait besoin de mettre un petit coup de pression à ses chrétiens. C'était pas bouillant. Tu sais ce qui est écrit là. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce que nous n'avons pas compris dans ce texte, c'est qui est le « tu » à qui le Seigneur s'adresse. « Tu » c'est qui ? Si le sens de ce texte, c'est que, parce que, là je suis au conditionnel, nous ne serions pas suffisamment zélés ou bouillants pour le Seigneur, il va nous vomir de sa bouche. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé, nous sommes tous fichus. Mais alors, fichus de chez totalement fichus. Moi, le premier. Parce que tous, nous pourrions être plus sanctifiés que nous le sommes. Tous, avec 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, on devrait être plus avancé que ce que nous sommes. Tous, moi le premier, on aurait pu davantage mieux prioriser. Ah ben, quand on est bouillant, on est bouillant. Hein. Quand on est zélé, désolé, tout le reste passe à côté. On aurait tous pu privilégier davantage notre piété personnelle. Tous, on a manqué des occasions de témoignage. Pourquoi tu n'as pas témoigné alors que tu en avais l'occasion? Tu as manqué de zèle. Eh bien, le Seigneur va te vomir de sa bouche. Et alors là, et vous voyez jusqu'où on peut aller et on s'en sort pas. Si c'est ça, si ce « tu » s'adresse à des enfants de Dieu qui ont Jésus dans leur vie, qui vivent avec lui, qui certes ont des progrès à faire, j'en ai, vous en avez tous, mais si ce sont des gens qui ont, étant disciples, ont des progrès à faire, c'est ce que je vous dis, on est tous fichus. Puis en plus, il y a d'autres problèmes. Je veux dire, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un chrétien est suffisamment puissant pour le Seigneur? Vous avez un thermomètre spirituel en vous, implicite? Il y a un thermomètre qui vous indique votre degré de bouillantisme évangélique. Comment on fait pour déterminer si je suis suffisamment ou pas? Ça ne marche pas. Comment le Seigneur peut-il dire, puisses-tu être froid ou bouillant? Ah ben non, Seigneur, tu ne peux pas me souhaiter d'être froid. Si encore le Seigneur avait dit, puisses-tu être bouillant? Il a dit, comme puisses-tu être froid ou bouillant? Le Seigneur, il souhaite à des gens d'être froid. Un jour, je discutais à un pasteur, désolé, je n'ai rien fait comme pastoral, mais j'ai toujours dit que je dirais la vérité. Dans l'amour, mais dans l'amour, je dis la vérité. Je dis, mais frère, ça ne colle pas cette interprétation-là. Parce que du coup, c'est quoi? C'est qui froid? Là où tu comprends, froid, c'est les inconvertis, bouillant, c'est les chrétiens, et tiède, c'est les chrétiens qui ne sont pas assez bouillants. Je dis, mais comment le Seigneur il peut souhaiter à un chrétien que par exemple, il lui souhaite d'être bouillant, mais pas il lui souhaite d'être froid, il lui souhaite de revenir en arrière. Je dis, ça veut dire quoi l'histoire? Il n'a pas pu s'expliquer. Donc il a commencé à s'emmêler du pinceau dans l'explication. Il dit, oui, mais enfin, parce que c'est plus facile de discuter avec un inconverti qu'avec un chrétien qui n'est pas zélé. Quoi? Ça ne tient pas. Ce qu'il faut comprendre, ici le Seigneur ne s'adresse pas à des disciples. Il s'adresse à des églises, il s'adresse à des, on va dire, anciens, disciples chrétiens, qui, à force d'avoir toléré, ont fini par mettre Jésus à la porte. Le texte est clair, Jésus est à la porte de sa propre église. Donc ce sont des gens qui ont été, et même quand des fois on dit, vous savez, c'est pas faux, mais quand on dit dans des moments où on veut toucher des personnes nouvelles dans l'évangélisation, si quelqu'un entend ma voix, je frappe à la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, etc. C'est pas faux là, ok. Mais ce texte ne s'adresse pas non plus à des inconvertis. Et il ne s'adresse pas non plus aux chrétiens, aux disciples que vous êtes, en espérant que ce soir tout le monde ait vraiment le Seigneur dans sa vie et marche avec lui. Ce texte s'adresse à des églises, à des constitués de chrétiens qui, à force d'avoir toléré, ont fini par mettre Jésus à l'envers. Ça va? Donc ce texte, si vous marchez avec Jésus, comme moi, vous avez tous besoin de faire des progrès sur tel domaine, mais vous marchez avec le Seigneur, vous lui appartenez, vous le confessez, ce texte ne vous concerne pas. De plus, ce qu'il faut considérer, je vais vous expliquer, parce qu'on ne peut pas interpréter des textes, ça s'appelle l'herméneutique. L'herméneutique, j'en ferai avec les anciens quand ils seront établis, l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter le texte biblique. Et on ne fait jamais d'herméneutique, on n'interprète jamais un texte biblique sans avoir pris largement le temps de l'étudier dans son, voire même dans ses contextes. Ça s'appelle de l'exégèse. Et quand on n'a pas fait une bonne étude de texte, c'est comme ça qu'on finit par sortir des clichés évangéliques disgracieux. Et il y en a comme ça plusieurs, il y a même des chrétiens, il y a des pasteurs qui sont convaincus, qui seront jugés, d'autres qui sont convaincus. Voilà. Parce qu'on a reposé notre doctrine sur des textes qui étaient déjà traduits, pas sur les textes originaux, des textes traduits, parfois mal traduits, et que nous n'avons même pas interprété nous-mêmes. Et on est arrivé parfois à dire des choses totalement antiques. Et puis en plus, il faut considérer quelque chose ici, bien aimé. Ce sens de bouillant pour des chrétiens qui ne seraient pas assez bouillants, c'est une pure invention de nos milieux évangéliques. Hein? Aucun texte biblique ne me permet de fixer ce système de référence froid, tiède, bouillant pour les chrétiens. Aucun. Il y a dans la parole, il y a des symboles. Ah oui, je sais que, par exemple, le levain est un symbole du péché. Mais j'ai plusieurs textes pour le démontrer. Je sais que l'eau est un symbole tantôt de la parole, tantôt de l'esprit. J'ai plein de textes pour le démontrer et tout sera parfaitement. Je sais que l'huile est un symbole du Saint-Esprit. J'ai plein de textes qui prouvent que... Mais je n'ai aucun texte biblique qui utilise cette symbolique froid, tiède, bouillant pour l'appliquer à des inconvertis ou à des chrétiens. C'est nous qui avons inventé ces choses. Je parle des milieux évangéliques, malheureusement, et ça a été une énorme boulette. D'ailleurs, froid, tiède, bouillant, froid, souros, bouillant, zestos, tiède, kliaros, sont des textes, des termes grecs qui ne figurent dans aucun texte, aucun autre texte. Ils ne figurent que dans ce texte-là. Ils sont nulle part ailleurs. Alors le Seigneur, il veut dire, ben, c'est très simple quand on a pris la peine d'étudier le texte dans son contexte. Déjà, on a compris, ça c'est la première chose, c'est évident, dans la lecture du texte, Jésus est en train de parler à des gens qui l'ont mis dehors, puisqu'il se tient à la porte. Jésus est dans la lumière, on l'a chanté, merci. Il n'est plus dedans. Donc, par conséquent, l'Église de Laodicée se trouve dans un état d'aveuglement, elle ne comprend plus rien, elle ne discerne même pas son propre état. Il faut que le Seigneur l'informe qu'elle est misérable, pauvre, aveuglue, et on va voir ce que ça nous dit. Et là, le Seigneur, pour attirer l'attention de cette église qui, malheureusement, est dans le flou total, et ça, dans un flou artistique, c'est un flou très inquiétant, mais des Laodicées, il y en a, et il y en aura encore. Le Seigneur va faire une analogie, il va faire un parallèle entre la ville, la situation de la ville, et l'état de l'église. Il faut savoir que Laodicée, ça, c'est pas dans la Bible, c'est le contexte historique qui nous le dit, mais c'est très facile à trouver. Laodicée est une ville qui a été construite là où il n'y a pas de source d'eau. Et comme il n'y a pas d'eau à cet endroit-là, les Laodicéens, pour s'approvisionner, avaient construit un aqueduc qui descendait, qui récupérait l'eau de pluie et qui descendait des collines des environs pour alimenter. Et c'était connu que lorsque des touristes, on va dire, des gens de passage, des gens qui venaient à Laodicée et qui allaient vers des points d'eau, des fontaines, etc., et qui prenaient cette eau et qui voulaient la boire, excusez-moi, je vais vous le faire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et naturellement, l'eau était recraché parce que impropre à la consommation. On est en Turquie, au 1er siècle, sans conditions sanitaires, sans conditions d'hygiène. Et cette eau, en pleine chaleur en été, descend l'aqueduc, arrive pour alimenter différents réseaux de la ville. Mais l'eau, du coup, se trouve être tiède et en plus être sale. Et quand on essayait de la goûter, naturellement, il y avait un haut-le-cœur, on la rejetait, on la recrachait, parce qu'on était surpris de ce que cette eau, ben, évidemment, était en réalité impropre à la consommation. Cette eau était totalement inutile, elle n'avait pas de bienfait, elle n'avait aucune utilité. Le Seigneur est en train de dire à cette église, si je ne suis plus le sang, si je ne suis plus dedans, et tu ne sers plus à rien, tu n'es même plus une église, tu es une association, mais tu n'es plus une église, tu n'as pas d'utilité, tu ne peux pas avoir de bienfait. Pourquoi le Seigneur dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce qu'il est en train de faire pareil, il faut regarder une carte, il y a la Odyssée. Légèrement au nord, nord-ouest, et légèrement au sud-est, il y a deux villes. Il y a Hiérapolis. Hiérapolis est connue pour ses sources d'eau froide. D'eau chaude, pardon. Hiérapolis est connue pour les sources d'eau chaude. Parce que l'eau chaude, c'est vraiment bienfaisant. Et Colosse est connue pour les sources d'eau froide. Donc, le Seigneur est en train de faire un parallèle très simple ici. Froid, il est en train de dire, tu vois, à Hiérapolis, l'eau chaude ou l'eau froide, peu importe, vous avez compris, c'est l'un ou l'autre, hein. C'est l'eau chaude à Hiérapolis. Les eaux chaudes sont bienfaisantes. Les eaux froides ont une utilité. Quand vous avez froid, quand vous avez des rhumatismes, faites-vous un bon bain bien chaud. Vous allez dans un jacuzzi. Vous avez le droit, c'est pas un péché. Vous allez dans un jacuzzi, vous allez vous détendre et vous avez de l'eau à 36 degrés, de l'eau chaude. Ça vous fait un bien considérable, ça fait un bien fou. L'eau chaude est utilisée pour faire du bien au corps et elle est reconnue parce qu'elle a vraiment une utilité, elle a des bienfaits, elle a une utilité. Quand vous voulez vous faire un bon thé en hiver parce qu'il fait froid, ben vous ne mettez pas de l'eau tiède, non, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez de l'eau bouillante pour votre infusion et vous le buvez chaud et ça vous fait du bien. Puis quand il fait extrêmement chaud dehors, ben vous appréciez d'avoir une bonne douche fraîche. Parce que l'eau froide vous fait du bien. Quand vous sortez du jacuzzi, demandez aux Finlandais, aux Suédois, etc. Quand vous sortez du jacuzzi à 38 degrés, vous allez vous mettre sous l'eau fraîche et ce contraste entre le chaud et le froid, ça fait du bien au cœur, ça vous revigore, ça fait du bien à la circulation sanguine, etc., etc. Donc, puisses-tu être froid ou bouillant, peu importe, que mais l'eau, qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude, elle a des bienfaits. Elle a une utilité. Et là, le Seigneur, il est en train de dire à la Odyssée, ben, depuis que je suis à la porte de ton cœur, ben, c'est une aberration, cette église, ça ne sert plus à rien. Vous voyez que le Seigneur n'est pas en train de parler à des disciples qui n'ont encore des progrès de sanctification à faire, bien sûr. C'est pas ça. Et dans les deux cas de figure, ces eaux sont porteuses de vie, elles ont une utilité, comme une église qui a ses spécificités, il y a une telle église, selon ce qu'elle est, selon ses points forts, ses points faibles, il y a forcément des points forts. Le Seigneur les fait ressortir dans son bilan des autres églises. Il y a des points forts, mais il y en a dans chaque église, il y a des spécificités et elles ont leur utilité. Elles ont des points d'affaires, mais elles ont leur utilité. Mais quand c'est tiède, l'eau est tiède et sale, elle est impropre à la consommation, ça ne sert à rien. Le Seigneur dit à l'Odyssée, tu es comme ces eaux qui ne servent à rien. Si j'étais ta source, parce que là, en réalité, le Seigneur étant à la porte, il n'est même plus la source de cette église. Si j'étais ta source, tu aurais nécessairement, tu aurais une utilité, tu aurais des bienfaits. Mais puisque tu m'as rejeté, tu ne sers plus à rien. Et il faut que tu comprennes que parce que tu m'as rejeté, alors bien sûr, c'est là la bonne nouvelle de la partie de ce message, c'est que même pour des gens qui en sont arrivés là, le Seigneur est en train de parler au futur. Ce n'est pas encore fait, mais il faut que tu saches que si tu t'entêtes dans cette voie, moi aussi, un jour, je serai obligé de te rejeter. Tu m'as renié, tu m'as abandonné, un jour, je finirai aussi par t'abandonner. Donc, vous comprenez bien le contexte. Comment la Odyssée, ensuite, comment la Odyssée en arrive à ce point? Là encore, il faut étudier le texte. Comment est-ce qu'on peut, un jour, finir par mettre Jésus à la porte de son cœur à la porte de l'Église. Il faut le faire quand même. Et bien certainement que tu as commencé avec des fausses doctrines, notamment une que l'on trouvait déjà au premier siècle et qui a encore cours aujourd'hui. Une vérité que l'Église n'a pas reçue au moment où l'apôtre Paul lui a communiqué cette vérité. Et là, vous dites, oui, oh, Stéphane, on connaît la Bible. Paul n'a jamais écrit au Laodicée. Faux. Jésus se présente tout d'abord comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, c'est-à-dire l'origine, le principe de la création. Je vous ai dit qu'à chaque fois, le Seigneur se présentait de façon différente à une église, qu'il se présentait d'une façon qui correspondait justement au grand manque de l'église. L'Amen, Amen, ça vient de Amen, ça signifie qu'il en est ainsi, ainsi soit-il. Amen, c'est un terme qui vient de l'hébreu. Et déjà dans l'Ancien Testament, vous relirez Ésaïe 65, Dieu se présente comme le Dieu de l'Amen. Et quand Jésus se présente ici comme l'Amen, le véritable, c'est une façon pour lui de réaffirmer sa divinité. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà une hérésie, une fausse doctrine qui courait à la Odyssée, à Colosse, à d'autres endroits, où on présentait un Christ amoindri, un Christ qui soit, certes, une créature exceptionnelle, parfaite, mais une créature de Dieu. On avait un Christ fantastique, mais créé par Dieu. Et c'était une hérésie, et c'est une hérésie, une fausse doctrine qui a encore cours aujourd'hui dans certains milieux, et ça existait déjà au premier siècle. Et cette doctrine qui présentait Christ comme simple créature de Dieu, c'est pour ça qu'il dit « je suis l'Amen » pour réaffirmer sa divinité par rapport au Dieu de l'Ancien Testament, Ésaïe 65, et puis aussi le commencement de la création de Dieu au sens de l'origine de la création. Il est à l'origine de la création. Il est vrai que l'apôtre Paul n'a jamais écrit directement au Laodicéen. Mais si vous faites bien attention, quand vous lisez la fin de l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit bien, Colossiens 4,16, lorsque cette lettre aura été chez vous, Colossiens, faites en sorte qu'elle soit aussi dans l'église des Laodicéens. Ce qui signifie que Laodicée, comme Colosse, et quand vous considérez l'épître aux Colossiens, dans cet épître, l'apôtre Paul appuie énormément. Mais alors énormément sur la divinité de Jésus. Parce que c'était justement un des problèmes fondamentaux, ces fausses doctrines qui commençaient déjà à amoindrir le Christ. Et Laodicée était dans ce cas, c'est pour ça que Paul écrit à Colosse, et juste au nord-ouest, il y a Laodicée, quand cette lettre aura été lue chez vous, Colossiens, faites aussi en sorte qu'elle soit lue chez les Laodicéens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient exactement ce besoin, parce qu'ils avaient exactement ce problème. Alors on va se dire, la lettre leur a-t-elle été parvenue? Ben moi je suis convaincu que oui, parce que c'est clair que Dieu veille sur sa parole. Amen. Et forcément cette lettre, elle leur est parvenue. Malheureusement, ils n'ont pas écouté visiblement, ils n'ont pas reçu cette vérité. Et aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, vers la fin des temps, d'autres églises ressembleront, qui sait, à force d'avoir toléré des doctrines différentes, à force d'avoir toléré de l'indicité, à force d'avoir toléré la religiosité, à force, ben on finit par ne même plus trop parler de Jésus. Puis on finit même par oublier l'essentiel parce qu'on s'habitue. Un, plus une, plus une, plus une. J'aime tout le monde, j'ai rien contre personne. Mais autant dans le témoignage des chrétiens, dans les prédications pastorales, dans les enseignements, combien de fois on a un évangile sans Jésus? On parle de Dieu, on parle beaucoup de Dieu, c'est très pratique, parce que nous, on peut lui donner le visage qu'on veut. Vous savez, vous pouvez parler pendant des jours avec des musulmans de Dieu, ça va très bien. On pouvait parler avec des tas de gens de Dieu. Et à partir du moment où vous dites Jésus, à la nous. Et en réalité, combien d'églises, parce qu'elles ont peur, de choquer parce qu'elles ont peur d'annoncer la couleur, combien d'églises, combien de prédicateurs évangéliques, pardon, finissent par apporter un évangile sans Jésus, un évangile sans croix, un évangile sans conviction de péché, un évangile sans repentance, un évangile psychologique, un évangile qui Dieu me fait ci, et on a beaucoup de langage très 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 conquérant dans le milieu évangélique, etc. Mais en réalité, un évangile, Jésus n'a pas la place centrale qu'il doit avoir dans les cœurs et dans la confession. L'une des premières choses qui font que les disciples, bien que c'était une belle équipe de bras cassés, qu'ils avaient plein de progrès à faire, ça a marché, c'est parce que l'apôtre, c'est parce que Jésus a dit à Pierre, qui n'était pas encore apôtre, et vous? Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Laodicée, c'est typiquement cette église qui s'est habituée, 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 toujours un peu moins. Puis un jour, peut-être, ne s'en est-elle même pas rendue compte. Et Jésus était dehors. À force, ils l'ont poussé un peu. Laodicée n'est pas une église qui a quelques soucis avec des points de doctrine, avec quelques points de doctrine qu'elle doit rectifier. N'est pas une église qui a des soucis de sanctification, où elle doit effectivement se repentir sur des points, se remettre sur le fil à plomb de la parole. Non, non, c'est une église qui a, enfin une église, on se comprend, qui a un gros problème avec Jésus. C'est dans ce contexte que Jésus a dit, il vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant. La Odyssée, c'est une aberration, parce que c'est une épouse sans époux. C'est une construction, un édifice spirituel qui n'a plus de fondement. C'est un royaume de sacrificateurs, logiquement, mais sans le Dieu du royaume. Et ça, c'est l'aberration, c'est ça le comble. Et c'est ça qui, d'un point de vue spirituel, devient totalement impropre à la consommation. Et c'est à ces gens-là que Jésus dit, tu m'as rejeté. Un jour, je serai obligé de te vomir de ma bouche. Un jour, je serai obligé de te rejeter moi-même, comme tu m'as rejeté. C'est pour ça que, parce que pour le Seigneur, ça, ben, vous le comprenez, pour nous, c'est tellement normal, c'est insupportable. C'est une véritable offense pour le Seigneur, c'est une aversion pour lui. C'est pour ça que le message paraît encore plus dur. Il est plus dur pour cette Église et qu'il faut le comprendre dans son contexte. Et en plus, c'est normal en même temps, Jésus n'étant plus la lumière de cette église, puisqu'il est dehors, l'église ne voit même plus son propre état. Et cet orgueil, cette église, pardon, est marquée par l'orgueil et par la suffisance. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est une église qui, à contrario, mais le Seigneur en informe, elle se trouve dans une grande pauvreté spirituelle, contrairement à ce qu'elle croit. Et c'est pour ça, parce qu'il lui manque l'essentiel, parce que Jésus, même, je le redis, j'ai des progrès à faire, j'ai des combats, j'ai des luttes, j'ai encore des victoires à remporter, il y a encore des choses, enfin, il les a remportées à la croix. Amen. J'ai besoin de m'en saisir, j'ai besoin de grandir dans sa connaissance, j'ai besoin de grandir dans sa communion. Il y a tellement de choses qui, oui, mais tout ça, le Seigneur le savait, il nous a pris en charge, et il veille, et il œuvre, et il travaille patiemment, patiemment encore, béni soit son nom. Mais c'est pour cette raison que cette église, Jésus étant à l'extérieur, que cette église est si malheureuse. Il ne peut pas y avoir de joie véritable sans lui. C'est pour ça que cette église est misérable. Misérable spirituellement parlant, c'est pour ça qu'il dit tu es pauvre spirituellement parlant, parce que c'est une église qui, vous allez le voir dans ma conclusion, avait aussi une grande aisance matérielle. C'était un centre commercial important, la Odyssée, pour l'époque. Et que lui dit tu es aveugle. Ben oui, parce que Jésus est la lumière de la vie. Il nous a rendu la vue, pardon. Il y a la lumière de la vie, il nous a rendu la vue, spirituellement parlant. Et puis tu es nu. Mais oui, mais sans Jésus. Où est cette robe blanche? Où est ce vêtement de justification? Revêtu de la justice de Christ. Les autres églises avaient certes des sérieux problèmes d'impudicité, ils avaient souillé leurs vêtements, mais au moins ils en avaient un. Que, au bout d'un moment, ben, où est ta justification si Christ n'est plus là? En conclusion, malgré le côté sérieux, solennel, ce message, cette lettre à ses Laodicéens, ce côté inquiétant pour ces chrétiens, ces disciples qui en portent le nom mais ne le sont plus parce qu'ils ont mis Jésus dehors, sans s'en rendre compte, peut-être, je ne sais. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu, c'est qu'il est encore temps, c'est que même pour eux, déjà, souvenez-vous, pour Thyatire, pour Sardes, les églises qui étaient dans des états franchement inquiétants, il était encore temps, et là, il est encore temps qu'il y ait une possibilité de retour, puisque Jésus parle encore. Quelle patience du Seigneur! Il aurait pu dire, oui, quand même, depuis le temps que je vous avertis, vous avez tout réfléchi, maintenant ça suffit, allez, c'est bon, moi je m'en vais. Humilié une fois de plus. Déjà, je crois que la croix, c'était suffisamment lourd. Et en plus de ne pas être reconnu, de ne pas être accepté pour qui il est, d'être humilié une fois de plus, d'être rejeté à la porte de sa propre église, il en est le propriétaire légitime. Quel amour et quelle patience à mon Seigneur pour être encore là. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si le Seigneur lui parle encore, c'est que c'est encore possible. S'il est à la porte du cœur, c'est qu'il est encore possible. Merci Seigneur. Le message est solennel, il est important. L'enjeu est vital, l'enjeu est éternel, on est d'accord. Mais c'est un message plein d'amour et plein d'espoir. Parce que quand le Seigneur dit « je te vomirai, je te rejetterai », oui, on parle là évidemment du dernier jour, quand la porte de la grâce sera fermée, c'est du futur. C'est pas encore fait. Je reprends et je corrige, j'instruis, je redresse selon les versions. Ce que j'aime, le Seigneur dit avec ce que tu m'as fait, ben je voudrais vraiment que tu comprennes que je t'aime encore. Tu n'échapperas pas aux conséquences de tes inconséquences. Je le redis, tu n'échapperas jamais aux conséquences de tes inconséquences. Mais il faut que tu saches à quel point je t'aime encore. Quel amour. Tu peux encore te repentir, tu peux encore revenir. Si tu m'ouvres, je vais entrer et souper. Pourquoi le Seigneur dit ça? Eh bien, parce que la communion avec Jésus a été fixée. Et on sait très bien que la table, j'entrerai, je souperai, la table me parle de communion, de joie, de la nourriture, de la plénitude, etc. Si tu m'ouvres, tu peux encore m'ouvrir, je vais entrer, je vais souper. C'est-à-dire que le Seigneur est le premier à avoir réellement, pour ne pas dire désespérément envie, de rétablir la communion avec cette Église qui vient de nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis rempli d'émerveillement et d'adoration. Extraordinaire. Non seulement Jésus vient encore avec tout son amour, mais en plus, il vient avec des solutions. Il vient avec des ressources. Il termine vraiment avec ça. On va relire le verset 18. Si vos bouches sont encore à votre côté de vous, ce que vous allez faire. On va relire le verset 18. Et vous allez voir que ce que dit le Seigneur à ce moment-là, ce n'est pas pour rien, parce que là encore, le contexte est extrêmement enrichissant. Mais je vous fais relire le verset. Le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Trois choses. De l'or, des vêtements, un collier. Pourquoi? Là encore, le Seigneur est en train de leur faire un parallèle. Nous, on a besoin de faire un petit peu d'étude de texte. Mais eux, ils ont compris ça en une fraction de seconde. De l'or, parce que Jésus est la véritable richesse. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que la Odyssée était le centre de la région dans ce bassin. Un commerce très important, le centre commercial certainement le plus riche de toute cette Asie mineure, de cette Turquie actuelle. Le plus important de la région. Et il vivait de trois activités essentielles. Ce que nous appellerions aujourd'hui le secteur tertiaire, c'est le domaine bancaire. C'est pour ça que le Seigneur, il avait d'énormes finances. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, tu es... alors que tu es extrêmement riche matériellement, mais tu es pauvre spirituellement. Et il te faut de l'or, il te faut la véritable. Oui, tu as des richesses. Oui, ton centre commercial est important dans cette région. Tu as beaucoup, mais tu as besoin de l'or spirituellement parlant. Tu as besoin de la véritable richesse, de la véritable valeur. C'est moi, de l'or. Tu as besoin de vêtements. Comme par hasard, dans ce secteur d'activité, dans ce bassin, L'église, pardon, la ville de Laodicée fait du commerce des tissus, et notamment de la laine. Donc les vêtements, ils savent très bien ce que c'est. Mais ils ont perdu ce vêtement de justice, ils ont abandonné ce vêtement de justification, et le Seigneur fait un parallèle. Ils vivent du tissu et de la laine, le Seigneur leur dit, tu as besoin d'un vêtement spirituel. Et puis, il y avait aussi déjà des pratiques, des connaissances verticales, notamment pour les yeux. Et ce qui était connu à cette époque dans le secteur de Laodicée, je vous le donne en, eh bien, c'était le baume pour soigner différentes maladies des yeux, rien à voir avec une chirurgie et les capacités aujourd'hui. Mais il y avait déjà, la ville de Laodicée était connue pour ses baumes pour les yeux. Et je te conseille d'acheter un collier, parce que toi, tu en vends des choses pour que les gens, humainement parlant, voient mieux. Et malheureusement, spirituellement parlant, tu ne vois plus rien. Et le Seigneur, en une phrase, fait un parallèle avec les trois secteurs d'activité principale de cette ville, de cette église, que forcément les gens prennent tout de suite. C'est pour ça que le Seigneur utilise ces images et qu'il se présente comme ça à eux. Il leur fait comprendre ce qui leur manque spirituellement. Cette église est devenue un paradoxe. C'est devenu un non-sens total. C'est devenu une aberration. Elle est pleine de richesses. Elle n'a même pas de beau temps. Elle a tout humainement et matériel. Elle n'a même plus Jésus, sa richesse, Jésus, sa justification, et Jésus, sa vision. Et voilà ce qu'elle a abandonné, pardon. Et là, le Seigneur lui dit, donc du zèle, il y a différents mots dans le Nouveau Testament pour le mot zèle, mais ici, c'est désirer sincèrement. Il faut que tu désires sincèrement s'occuper aussi. Ça signifie aussi s'occuper sérieusement d'eux. Et donc, du zèle, le Seigneur est en train de dire littéralement, occupe-toi sérieusement, revenir à moi, comme moi je veux venir à toi. Occupe-toi sérieusement de revenir à moi et de restaurer, de réparer, de reconstruire cette communion, cette intimité avec moi, en me laissant entrer et en te mettant à nouveau sur la table. Il te faut de l'empressement pour ces choses. Et si tu réponds, si tu entends, si tu écoutes, c'est chacun pour sa part. Le Seigneur s'adresse à des collectivités, il s'adresse à des communautés. Mais je voulais faire remarquer, toutes les lettres, sans exception, commencent, terminent par que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra. Merci Seigneur, parce que c'est la responsabilité, c'est la possibilité. Voilà pour cette église de Laodicée, voilà ce qu'elle peut pour nous, ce qu'elle peut aussi nous apprendre dans le contre-exemple, mais ce qu'elle nous apprend aussi, que le Seigneur a voulu que ce soit dans sa parole pour notre instruction. Amen. Soyez bénis, on se recueille.